Plutôt réflexion ou action?
Action,
Conviction ou incertitude?
incertitude.
Nous avons défini, sinon étudié, le wine, le vin.
C'est la terre, c'est aussi le soleil.
Des champis de vinesse.
Bienvenue dans la Voix des Vignes, est-ce que tu peux te présenter?
Yann Bertrand, viticulteur à Fleury depuis 2012 avec mes parents, Guy et Annick Bertrand, avec qui je travaille encore aujourd'hui. On travaille sur 9 hectares sur Fleury principalement, Morgon et un petit peu de Beaujolais. Actuellement, j'ai que 7 hectares et demi en production, mais on a pas mal de terrain en attente. Voilà, on est en bio depuis 2012. C'est Guy et Annick qui ont initié le travail en bio, et à mon arrivée en 2012, j'ai mis en place l'expérimentation de la biodynamie. Donc aujourd'hui, le domaine est quasiment intégralement travaillé en biodynamie, mis à part une petite parcelle, mais pour des conditions d'expérimentation.
Ok, donc il y a une parcelle que tu n'as pas travaillée en biodynamie pour voir du coup l'impact que ça pouvait avoir dessus?
Exactement. Exactement. Là, on arrive au bout de l'expérimentation. Ça fait 10 ans aujourd'hui que j'ai débuté à être vigneron, où le réel objectif, c'était de voir si ça pouvait fonctionner chez nous. Alors, je suis vraiment... dédié à la biodynamie, je crois fortement à la biodynamie, mais je pense que c'est bien aussi d'avoir des essais. Je me suis arrêté à la première phrase de Rudolf Steiner qui était « ne m'écoutez pas, expérimentez ». Donc c'était ma meilleure façon de le faire. Donc on arrive au bout de l'essai, il y a 5000 mètres qui ne sont pas travaillés dans la même lignée que toutes mes parcelles, donc on a pu voir en 10 ans aussi des effets plus ou moins grande la biodynamie de manière visuelle, et puis là maintenant on pousse un petit peu les choses en faisant des essais beaucoup plus poussés au niveau des sols pour voir si on a plus ou moins de synergie avec les bactéries, champignons, qu'est-ce qu'il y a dedans, s'il y en a beaucoup plus ou pas. Voilà, moi j'ai mon idée sur les terrains, sur les vignes, mais voilà, j'essaye d'aller un petit peu plus loin.
Et en termes de sol, tu nous as pas dit sur quoi vous travaillez?
On est quasiment intégralement sur du granit, de l'arène granitique. On a la particularité, nous ici à Fleury, sur mon domaine, d'avoir 98% de ça quasiment sur une partie du domaine, donc vraiment des terrains très très drainants. Peu profond, on est très vite sur la roche mère. Et donc voilà, et après on a un petit peu de Beaujolais, où les Beaujolais, là on retrouve des terrains plus profonds, et là on retrouve un petit peu plus d'argile, et j'ai une toute petite partie aussi du domaine qui est sur argile.
Et du coup le cépage
uniquement du Gamay, hein. On est dans le Beaujolais, donc c'est planté à 100% Gamay, avec des densités... plus ou moins varié. On passe sur le domaine de 11 000 pieds hectare à 8 600 pour les nouvelles qu'on est en train de planter.
Et pourquoi avoir réduit le nombre de pieds par hectare?
Il y a deux facteurs. Réellement, il y a la facilité de travail, parce que quand on est à 1 mètre par 90 cm, c'est très très délicat de travailler. Et puis en même temps, réellement, c'est dans l'air du temps de diminuer un petit peu ses densités vis-à-vis des stress hydriques. Donc il y a un petit peu les deux facteurs.
Oui, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, mais être sur des sables, tu es forcément plus confronté à des stress hydriques, surtout sur des granites, parce que tu as des sols qui sont ultra drainants, donc qui en aucun cas ne retiennent l'eau, quoi.
Il y a ça, et il y a aussi le fait qu'on a très peu de profondeur de sol, donc obligatoirement nos racines de vigne, malgré qu'on les ait travaillées, labourées, on peut se dire qu'on a aidé l'enracinement de nos vignes, malgré tout, y a certaines parties à 40-50 cm de profond, on tombe sur la roche mère, et la roche mère, c'est une dalle granitique qui est quasiment imprenable pour les racines, pour pouvoir aller chercher plus profond. Donc obligatoirement, on a un stock sur ces terrains granitiques d'eau qui sont de l'ordre de 25 mm. Quand on est sur des terrains crayeux comme la Champagne, je crois que le stock est plein, il y a 250 à 300 mm. Donc obligatoirement, c'est des terrains qui, en plus, si c'est un peu profond là-bas, il peut y avoir un été caniculaire où il n'y a quasiment pas d'eau pendant 3 mois, et les vignes de Champagne sont magnifiques, quoi.
Ouais.
Avec de l'herbe, avec un enherbement naturel ou pas maîtrisé du tout dans l'interrang, et en fait il y a des vignes qui sont vraiment magnifiques, quoi. Nous, c'est quasiment impossible avec le granit, donc faut beaucoup bosser. Moi, je sais que j'ai beaucoup bossé là-dessus sur les taux de matière organique, le fait qu'on ait plus de carbone dans les sols pour pouvoir avoir un sol qui soit d'une part perméable, mais en plus qui est la capacité de retenir le maximum d'eau. Donc c'est un travail sur le long terme, mais réellement on en voit les effets aujourd'hui, et on continue dans ce sens-là parce que on sait très bien que ça sera sans doute plus délicat, on aura plus tard des effets climatiques plus importants.
Vous avez des sols acides, quel impact ça a du coup sur, par exemple, je sais que c'est plus difficile de dégrader la matière organique. Est-ce que du coup il y a des façons de faire sur ces sols acides pour justement ramener un peu plus de vie?
Ah, c'est-à-dire que, oui, tu dis l'acidité des sols fait que c'est beaucoup plus délicat. Ben, l'acidité des sols, c'est un paramètre, oui, qu'on travaille, hein. Le pH des sols et le pH eau est quand même très important au niveau agronomique. Donc pour ça, ben, y a les analyses, il y a le fait de pouvoir réintégrer du calcium dans les terrains pour pouvoir un petit peu dégrader les pH, et notamment le pH eau. Il y a des essais là qui se font sur d'autres types, parce que c'est vrai qu'on avait tendance à mettre très rapidement de la chaux éteinte, mais il y a d'autres, actuellement il y a d'autres choses qui sont en train d'être essayées, mais voilà, c'est quelque chose que je regarde, oui, beaucoup, parce que malgré tout, plus on est sur des terrains très acides en effet, et moins on aura de vie dans les sols, parce qu'on connaît aussi la facilité des bactéries, champignons à travailler sur des pH qui sont un peu plus hauts, et en même temps faut pas arriver à des pH qui sont trop hauts au risque d'avoir une incidence aussi sur nos raisins.
Pour aborder la deuxième partie, on avait décidé ensemble de parler de la macération carbonique, ou plutôt des différentes macérations carboniques. Est-ce que déjà tu pourrais un peu nous parler de son origine, et puis pourquoi aussi elle est si emblématique dans ce secteur-là de la France ?
Alors la macération carbonique, la définition, ou alors en tout cas l'historique, je ne sais pas s'il y en a qu'on peut décrire une année ou des choses comme ça, je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est, je pense, une pratique qui est ancestrale et qui est assez la plus classique, la plus simple, je dirais, c'est-à-dire faire des vendanges entières, de ramasser des raisins entiers, et de les mettre entiers dans une cuve. Donc ça, après, il y a différents types de macération carbonique, comme tu l'as dit. Souvent, en fait, au niveau bibliographique, on entend parler souvent de macération carbonique. Il y a eu un substitut, en fait, qui a été fait, qui n'a jamais été décrit, mais qui est la plus utilisée, c'est la semi-carbonique. C'est la macération semi-carbonique, c'est-à-dire que c'est celle-là qui est en grappes entières, des cuves pleines de grappes entières, avec une macération plus ou moins longue, avec du jus qui se fait. Ça, c'est les bases de la semi-carbonique, avec une partie de fermentation intracellulaire.
Donc intracellulaire, ça veut dire que c'est pas forcément les levures qui vont travailler, Parce que souvent, quand on nous explique un petit peu les fermentations, c'est les levures qui vont être dans l'ambiance de chai et sur les peaux qui vont venir dégrader les sucres présents dans le jus. Et là, du coup, tu nous dis qu'il n'y a pas forcément de jus tout de suite et que c'est à l'intérieur de
C'est-à-dire que sur la semi-carbonique, il y a une partie au fond de la cuve qui va, où il va y avoir du jus. Voilà. Et la partie au-dessus, le chapeau, ce qu'on peut appeler le chapeau, est pas en présence de jus. Le fait que ça soit pas en présence de jus, ça crée, avec le gaz carbonique qui est fait par les levures en dessous, par le début de la fermentation en dessous, ça crée une anaérobie qui fait que les raisins entiers, quand ils sont entiers, hein, ils créent une macération préfermentaire, c'est-à-dire une macération enzymatique qui vont dégrader notamment l'acidité, et puis ça va permettre de renforcer le fruit. Donc là, sur ça, on parle de semi-carbonique.
Et quand on parle de macération carbonique simple.
Voilà. Alors il y a deux carboniques encore. Il y a donc les macérations carboniques, la vraie, l'officielle et celle qui a été en fait le plus travaillée et le plus étudiée, c'est celle qui a été initiée par Jules Chauvet, qui était cette grande personne du vin en Beaujolais, qui a beaucoup, qui a œuvré toute sa vie à travailler sur les fermentations. Et donc là, il a essayé de faire en fait de cette tradition de semi-carbonique, il a essayé de créer la réelle macération carbonique, c'est-à-dire une macération carbonique, c'est le même principe, c'est toujours des grappes entières ramassées à la main avec le moins de trituration possible, mis dans une cuve avec donc les grappes entières mis dans la cuve et à la différence, c'est que il enlevait le jus et il saturait et sursaturait de gaz carbonique plusieurs fois. Et l'objectif, c'est d'avoir une fermentation intracellulaire qui soit quasiment sur la totalité de la cuve.
Et ça, l'idée, c'est d'aller chercher une aromatique bien spécifique.
Et ben en fait, on est sur deux choses complètement différentes parce que du fait qu'on n'ait pas de jus, déjà d'une, il y a beaucoup moins d'extraction, donc il y a beaucoup moins d'extraction d'anthocyane, de tanin, et il y a aussi une grande différence au niveau aromatique, en effet, parce que là, on est quasiment intégralement sur une macération enzymatique. Au moins au départ, parce que petit à petit les jours se font et en fait l'enzymatique se fait aussi. Et nous, on a la chance, en tout cas dans le Beaujolais, d'avoir du gamay, les peaux sont assez fines. Et par cette macération enzymatique et le poids de la vendange, on va dire, il y a petit à petit quand même un éclatement de la baie qui, bien sûr, fait descendre le jus. Donc là, c'est encore. Un troisième style de carbonique, c'est ce qu'on appelle une carbonique stricte. La carbonique stricte, c'est celle où on va enlever le jus tous les jours pour n'avoir que une fermentation intracellulaire du vin. Et c'est-à-dire qu'à un moment T, on va décider de sortir ces raisins qu'on fait que de la macération carbonique stricte pour pouvoir les presser. Et à la fin, on finit classiquement les fermentations.
Donc, une carbonique stricte, t'enlèves le jus tous les jours, et une macération carbonique classique, le jus est enlevé une fois tous les.
Non, on peut l'enlever, on va dire, du départ si et seulement si il y a eu une trituration du raisin sur, on va dire, le fait d'apporter le raisin à la cuverie, le fait de le mettre dans la cuve. Et après, derrière, on reste là-dessus.
Quel avantage tu trouves à chacune d'entre elles et quelles difficultés tu peux rencontrer face aussi à ces trois types de vinification?
Alors, la semi-carbonique, c'est celle qui a été faite en premier, enfin, faite en premier, la plus naturelle possible, au final, puisque ça demande très peu de matériel. C'est-à-dire que bon, ben, on ramasse, ça fait du jus un peu rapidement, et plus ça fait du jus, plus ça fait du jus, on va dire ça comme ça. Donc ça extrait un petit peu plus, et en même temps le fait d'être à température ambiante, on n'a pas parlé de température, j'ai oublié de parler de température dans toutes ces phases, mais en tout cas le fait d'être en température ambiante, ça a une extraction plus rapide, donc en fait les fermentations, on va dire, ont une cinétique fermentaire de plus en plus forte. Donc c'est finalement la vinification la plus simple qui soit sur les styles de macération carbonique. Alors elle a l'avantage de la fermentation, elle a aussi l'avantage d'avoir une extraction un petit peu plus forte, que ce soit de la couleur, des tanins, des anthocyanes. Elle a tendance à faire des vins types un peu primeurs. Donc avec un côté très séducteur, très gourmand, une attaque vraiment très fruitée. Voilà. Par contre, on a peut-être un petit peu moins de longueur en bouche. Quand je parle de longueur, je parle pas de le côté tanin peut être plus important sur une semi-carbonique, mais c'est vraiment sur les aromatiques, je dirais, quelque chose de peut-être un peu moins fin. Ensuite, la macération carbonique, donc la macération carbonique à froid, où on va retirer le jus dès le départ et après on va laisser un petit peu faire les choses, ben généralement en fait on a un départ en fermentation qui est beaucoup plus lent déjà.
Dû à la température.
Alors, dû à la température, dû au fait qu'on ait enlevé le jus qui est au fond, et du fait qu'on soit déjà saturé, sursaturé en gaz carbonique. Parce qu'on est sur des fermentations, quand on fait des fermentations, on va dire, sans levurage, les levures ont besoin d'oxygène aussi pour faire leur fermentation, et là on leur met du gaz carbonique.
Donc on va à l'inverse de leur...
On va à l'inverse de leur productivité, donc obligatoirement on cherche pas en fait la fermentation pure et dure des levures du départ, mais on cherche cette enzymatique. Et cette enzymatique, elle se fait si et seulement si, et elle se fait encore mieux, on va dire, si et seulement si les levures sont pas en route, c'est-à-dire que les premiers sucs qui vont être dégradés, et ben c'est les enzymes qui vont les dégrader. Et c'est ça qui crée, on va dire, des aromatiques très différentes. Et puis on a une dégradation de l'acidité. On va en fait enlever l'acide malique. Mais du fait qu'on enlève un peu d'acide malique, ben obligatoirement, on a plus de risques, puisqu'on va très vite faire des malos sous-marc. Et après, on est sur un fil durant toutes les fermentations, puisqu'il faut finir l'ensemble des sucres. Et en même temps, les bactéries ont fait leur malo,
Donc
leur deuxième.
potentiellement peuvent venir dégrader le sucre.
Et derrière, elles peuvent dégrader le sucre à tout moment. Et donc, quand des bactéries lactiques, donc ça dépend lesquelles, hein, parce qu'il y a aussi différentes familles. Hein, on a les hétérofermentaires et les homofermentaires qui n'ont pas exactement les mêmes capacités. Ben là, obligatoirement, on a des risques, que ce soit, on va dire, sur des phénols ou sur de l'acidité volatile. Donc voilà, par contre, au final, si on arrive à bien faire une macération carbonique, pour moi, et ça c'est mon opinion, je trouve qu'on obtient des vins avec une plus grande finesse, une plus grande complexité, une plus grande buvabilité, ce qui fait que c'est deux choses totalement différentes. Et enfin la dernière, la macération carbonique stricte, la troisième, bah là on ne veut absolument pas avoir de fermentation. Donc des fois, on peut avoir, du fait qu'on retire les jus tous les jours, en fait, les jus qui sont laissés au fond ont à peine le temps de fermenter. Donc au final, il est quasiment impossible d'avoir une densité, donc un suivi de fermentation, c'est-à-dire qu'on peut être sur 12 jours avec la même densité. Ce qui fait un petit peu flipper, hein, d'ailleurs. Ce qui fait que c'est là, on va dire, un grand, grand feeling. On laisse place à un feeling énorme au niveau du vinificateur, c'est-à-dire qu'il faut sentir le moment où on est allé, où on va aller trop loin en fait dans la macération carbonique stricte, qu'on n'aura plus aucun intérêt au niveau organoleptique de continuer cette macération sans jus. Et là, d'arrêter et de presser. Donc là, obligatoirement, en fait, on a eu une extraction aromatique que par les enzymes, quasiment. Il y a toujours un peu de levure qui se balade par-ci, par-là, quand même. Hein. Il y a toujours les premières levures, les mitochondries, enfin bon, bref, qui traînent par-ci, par-là. Mais globalement, on ressort avec des densités phénoménales, avec quasiment tous les sucres à dégrader. Par contre, on est allé jusqu'au bout de la carbonique, donc avec une très grande dégradation de malique, avec un côté mes fruits complètement du fait d'une estérification. En fait, on va créer des thiols variétaux complètement délirants. On peut aller sur le côté très exotique. Le litchi, le côté fruit de la passion, on est sur un truc complètement délirant. Par contre, bien sûr, là on a tous les sucres à faire, il y a les malots qui se sont quasiment faits dans le mou, donc là c'est très 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 chaud.
Et très exposé du coup.
Très exposé, et en plus on a quasiment pas de matière, on n'a pas dégradé de matière, c'est-à-dire qu'une macération carbonique, une enzymatique, quand elle est vraiment bien faite, elle fait le même effet au niveau extraction aromatique, hein, je parle de phénol, que si vous faisiez un remontage quasiment tous les jours. Ah ouais. Sauf que on n'a pas d'extraction de couleur, on n'a pas d'extraction d'anthocyane, on n'a pas d'extraction de tanin. Ce qui fait que ça fait des vins qui sont complètement rosés, et qui peuvent avoir aussi des risques, on va dire, au niveau oxydatif. Et au niveau oxydatif, on dégrade aussi cet arôme très frais, très, très éphémère de litchi, de fruits de la passion, quoi. Donc là, on est sur le côté le plus exposé, c'est ce qu'il y a de plus risqué. Et ça fait des vins, faut quand même avoir un public averti, parce que là, on est sur des vins rouges, en tout cas, moi, je parle pour les rouges, très, très différents. C'est-à-dire qu'on est à la limite du rosé, mais en même temps, c'est pas ça, parce qu'il y a eu une grande macération quand même. C'est un vin qui peut vraiment sortir des sentiers battus, quoi.
Et le jus que vous retirez à chaque fois, est-ce que tous les jours sur une carbonique stricte, il fermente à côté, j'imagine. Est-ce qu'à chaque fois, du coup, vous rajoutez sur le même jus, et ça veut dire qu'à chaque fois, tous les jours, tu reprends un palier de sucre.
C'est ça.
Ok.
C'est ça.
Donc là aussi, tu t'exposes.
Il y a ça, et puis il y a un truc qui peut être intéressant, c'est que le fait qu'on rajoute tous les jours du sucre. Si on a des paliers intéressants au niveau densité, parce que ça, bon, on va dire que c'est limite du rosé de saignée. Mmh. Là, tout dépend des vinificateurs, mais là, on peut laisser, on va dire, à température ambiante. Donc, tout de suite, les levures se réveillent, ont du sucre, et généralement, en fait, on leur rajoute du sucre, donc on leur rajoute à manger un peu tous les jours. Donc, elles ont tendance à vraiment envoyer fort. Mais il peut y avoir aussi un gros intérêt de finalement ajouter du sucre naturel, hein, je parle pas de chaptalisation de saccharose, d'avoir aussi une aromatique un peu spécifique, parce que si on est à des densités bien spécifiques, on crée des aromatiques très différentes.
Et donc toi, tu pratiques les trois type de macération?
Alors, je pratique les trois. J'ai pratiqué les trois, et je pratique en fonction, je m'adapte vraiment en fonction de chaque millésime, puisque chaque millésime est différent, et en fait, c'est pour moi un levier, un grand levier, parce que l'objectif du domaine, on n'en a pas parlé au départ, mais l'objectif du domaine, c'est de ne rien ajouter dans les vins, et c'est chose qu'on arrive à faire 99% du temps. Le peu qu'on puisse mettre, c'est éventuellement un petit peu de soufre à la mise, et encore c'est anecdotique, mais bref, L'objectif, c'est qu'on puisse faire des vins les plus nets possibles, tout en restant naturel. Et donc, en fait, je suis pas du tout arrêté sur une technique qui serait mieux qu'une autre. Je pense qu'elles ont tout un intérêt en fonction de ce qu'on va avoir en raisin d'année en année.
Et tu arrives du coup au moment de la vendange, suivant le millésime, comment tu as vu qu'il avait évolué, à te projeter, à te dire cette année je sens que je vais aller plus vers ce type-là, ou c'est vraiment du moment que les raisins sont posés dans la cuve que t'es inspiré?
Il y a les deux. Il y a les deux parce qu'on vit une année, chaque année particulière, donc on vit toute l'année à la vigne, on travaille, on ressent les choses. Donc oui, il peut y avoir aussi des accidents climatiques, on peut avoir de la grêle, donc en fonction de ça, on va juger différemment, on peut avoir de la pourriture qui se met en route, on peut. Donc tout est à prendre en compte. Donc on a toujours des idées avant même de faire la fermentation, et puis après on affine en fonction parce que pareil, on a des parcelles un petit peu différentes, des fois qu'on prit plus ou moins une grêle, qu'on prit plus ou moins un coup de chaleur, et là après, en fonction du raisin qu'on voit arriver, ben ouais, moi je sais qu'il y a une grande grande part de feeling qui sont dans mes vins, quoi. Il y a un truc qui m'est revenu et qu'on n'a pas fini de parler aussi, c'était le fait que pourquoi on la voit autant dans le Beaujolais.
Ouais.
Et en fait, il y a une raison réelle, c'est que les rafles sur le Gamay, ici, on a la chance d'avoir une maturité au niveau des rafles qui soit au même moment que la maturité de nos belles raisins.
Pourquoi tu précises ici dans le Beaujolais? C'est-à-dire que des gamets, par exemple, qu'on pourrait
Ouais, je
prendre
parle.
dans la Loire.
Je pense que le Gamay de partout, en fait, ça, la variété, elle est beaucoup plus favorable. Et pourquoi plus ici qu'ailleurs? Pour la simple et bonne raison que ici en Beaujolais, on n'a que du Gamay. Et je pense qu'on a moins d'influence que certaines régions qui sont des fois plus proches, encore plus proches, je dirais, de la Bourgogne ou des choses comme ça, ou qu'on différencie cépages. Ou donc là, ben, pourquoi on fait le pinot non dégrappé, pourquoi on ne va pas faire, enfin, égrappé, et pourquoi on ne le fait pas sur le Gamay, enfin. Là, on est uniquement sur du Gamay et il s'avère que les deux mûrissent quasiment au même moment. Donc voilà, pourquoi on va dire s'ennuyer. Et en fait, cette rafle, elle est très très importante parce qu'elle apporte énormément d'eau, elle apporte énormément de potassium sur un moût. Et au final, il y a un réel effet de l'utilisation de la rafle. Mais par contre, et c'est bien de le préciser, c'est que on a une rafle qui commence à se lignifier, qui commence un peu à, pas à rougir, mais à brunir un petit peu légèrement au moment des vendanges, et donc on a vraiment un potentiel, même aromatique, là-dessus.
Et est-ce que c'est un type de vinification qui va dupliquer aussi tout le mauvais goût?
Est-ce que c'est un style de vinification qui va plus décupler on va dire, les potentiels mauvais goûts sur une année?
Ouais. Est-ce que tu n'as pas le droit à l'erreur
Alors,
plus que sur une
toute
vendange
façon,
raclée?
t'as jamais le droit à l'erreur sur une macération carbonique, et en plus, si elle est stricte. Parce que tu freines les fermentations. L'objectif, c'est de freiner les fermentations, de tout faire pour éviter que la Saccharomyces, elle travaille. Donc obligatoirement, il y a tout le reste. Enfin, si tu es dans une idée, on va dire, naturelle des choses, de fermentation, bah, obligatoirement, vous rentrez de la vendange un petit peu pourri, bon, ben, il y a beaucoup de lacase, ça part très vite en sucette, il y a des espèces de petits coups de grêle où on peut avoir des attaques de Cloquera. Oui, c'est peut-être, on va dire, le fait qu'on soit en carbonique, qu'il n'y ait pas tout le jus, en fait, ben, on peut vite être attaqué par ben, de l'oxygène un petit peu sur le dessus de la cuve. Alors normalement, les vrais carboniques sont faits dans des cuves fermées, je dirais, hermétiquement parlant.
Okay.
C'est les vrais carboniques. Hein. C'est décrit dans toutes les bibliographies. Les gens l'oublient, mais voilà. Pour en fait avoir cette capacité d'être sursaturé en gaz carbonique aussi. Il y a ça, il y a le fait que ça soit hermétique, parce que faut vraiment que tout le gaz qui sort de la fermentation enzymatique et qu'on a saturé, sursaturé de gaz carbonique, ne s'échappe pas. C'est vraiment de l'anaérobie pure et dure. Et donc oui, je pense que réellement on n'est plus sujet, pour la simple et bonne raison que le jus protège aussi des attaques de cloquera ou des choses comme ça. Parce que en fait, il n'y a pas d'oxygène, ou enfin le jus est complètement baigné avec les raisins, par exemple, en méthode égrappée. On est très vite sur des chapeaux, c'est pour ça qu'ils essayent d'immerger le chapeau aussi, c'est pour éviter que le chapeau prenne une piqûre. Donc là, en fait, la piqûre, elle est possible en permanence, vu qu'on n'a pas de jus.
Pour en revenir encore au Beaujolais, c'est souvent un style de vinification qui est utilisé pour le Beaujolais nouveau. C'est en tout cas l'imaginaire commun. Et souvent, on dit que ça standardise les goûts et qu'on retrouve un goût de banane. Est-ce que ça, c'est un mythe? Est-ce que c'est vrai? Et toi, du coup, tu l'utilises pas que sur tes Beaujolais nouveaux, tu l'utilises aussi sur tes crus.
Alors, celui qui est le plus utilisé, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la semi-carbonique.
Ouais.
Alors souvent, on parle de carbonique parce que bon, ben, les gens vont être perdus si on commence à dire macération semi-carbonique, carbonique, strip carbonique, semi-carbonique, quoi. C'est beaucoup plus simple commercialement parlant. Mais c'est plutôt des semi-carboniques, comme je t'expliquais, puisque d'une, on fait des fermentations un peu plus rapides, avec quand même une petite extraction des tanins, de la couleur. Et en même temps, la semi-carbonique, l'avantage, c'est qu'elle crée vraiment ce côté facilité du vin, enfin, rapidité, et puis ce côté très gourmand à l'attaque, enfin, tout ce qu'on demande pour un primeur, quoi, que ça soit un évian fruité, quoi.
Et est-ce que du coup cette aromatique de banane est systématique?
Alors l'aromatique de banane, c'est un réel arôme naturel de nos gamets sur granit quand on fait des semi-carboniques. En fait, l'arôme de banane, c'est quoi? C'est de l'acétate d'isoamyl, c'est un bon acétate. C'est vrai que des fois, quand on parle d'acétate, c'est pas super...
Ça peut faire peur vite.
Ça peut faire peur, mais là, c'est de l'acétate d'isoamyl. Et l'acétate d'isoamyl, elle est vraiment donnée par le travail de la fermentation, la fermentation alcoolique, d'une levure spécifique qu'on retrouve beaucoup en Beaujolais. C'est-à-dire que il y a des années où on a des forts taux d'acétate d'isoamyl sur les baies de raisin, donc au niveau de la maturité, et ces forts taux d'acétate d'isoamyl, quand elles sont travaillées par les levures, elles créent cet arôme un peu de banane, de côté arlequin. Alors quand on a il y a des stades en fait d'acétate d'isoamyl, le premier stade, c'est celui-là, premier stade de maturité du gamay sur les sables. Après, on arrive à un second stade qui est le côté, on va dire, Poire Williams. Et on finit, quand on a vraiment au top du top d'acétate d'isoamyl, on finit par un côté limite torréfié chocolat.
Ah d'accord.
Qu'on retrouve en fait sur la fermentation au-dessus de nos cuves. Alors après, pour que ça arrive dans les vins, on va dire que c'est des arômes fermentaires, des arômes primaires de la fermentation alcoolique. Donc, c'est des arômes qui sont, on va dire, très, très fragiles et donc qui peuvent très rapidement partir. Alors, le fait que ça soit sur des vins primeurs où finalement on peut les faire, où on va dire on va ramasser au mois de septembre, il faut commencer à les sortir parce que souvent on arrête le primeur uniquement au troisième jeudi de novembre. Mais en fait, avant, c'était le déblocage. Et donc, en fait, on appelait ça des... moi, j'ai toujours appelé le peu de Beaujolais que j'ai fait, parce que je trouve que c'est un exercice ô combien difficile et fantastique à faire, de faire des Beaujolais primeurs. Je les appelle des Beaujolais primeurs sur mon étiquette, et pas des Beaujolais nouveaux, puisque les Beaujolais nouveaux, c'est le côté commercial qui a pris le pas sur une réelle tradition... du coin, qui pour moi est formidable. C'est-à-dire que le Beaujolais primeur, bah, comme tout primeur, c'est le premier, la première récolte, que ce soit une fraise, que ce soit des pommes, voilà, un primeur c'est un primeur. Réellement, c'est quelque chose de très difficile à faire naturellement parlant, mais par contre, c'est formidable quand on sait bien exécuter cet exercice. C'est un vin qui est d'une gourmandise infinie, qu'on peut boire. Souvent, on essaye de le comparer à des crus, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même objectif. C'est vraiment de pouvoir boire un verre. Un vin frais, léger, ouais, moi je parle des vins fruités, quoi.
On rapporte aussi ces Beaujolais primeurs ou nouveaux à la consommation sur l'année instantanée. Est-ce que toi, tu as trouvé un intérêt ou est-ce que tu as pu déguster des primeurs qui avaient, je sais pas, 5, 10, 20 ans et qui avaient encore un intérêt?
Ouais. Ben alors déjà, moi, sur mes propres vins, hein, j'en ai fait en 2016-2019. J'aurais bien voulu en faire en 2021, c'était une belle année à primeur. J'ai pas pu, malheureusement, à cause de soucis, on va dire, climatiques. Mais j'ai eu l'occasion aussi de goûter des anciens primeurs. Alors, il y en a certains qui, bien sûr, prennent un petit coup dans l'aile, mais il y en a certains qui sont tout à fait formidables. Des années un petit peu acides, ou pareil, hein, le travail il est très maîtrisé en vinification. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire des super canons. Alors ça reste un canon très friand, très gourmand, très fruit, mais qui évolue avec le temps, puisque ces arômes, on ne parle que d'arômes primaires, ben, se dégradent un petit peu, donc évoluent un petit peu, mais globalement ça peut être super chouette, quoi.
Et pour en revenir encore à toutes ces différents types de macération carbonique, tout à l'heure je l'évoquais de la standardisation des goûts. Est-ce que c'est vraiment une vinification qui va mettre le pas sur le côté technique et faire oublier le terroir, ou ça va être un style de vinification qui fera révéler le terroir plus tard? Comment tu décrirais ça?
Alors moi, mon opinion, c'est que réellement c'est une très grande blague le fait que ça standardise les vins, puisque en fait ça dépend ce qu'on a l'habitude de boire, ce qu'on a l'habitude de goûter. C'est-à-dire que en effet, pour une personne qui a l'habitude de goûter des vins faits de manière un petit peu plus classique, on a un palais, et dès lors qu'on va goûter une macération carbonique, on est tellement sur ce côté gourmand, fruité, on va dire facile à boire, que on est à l'opposé, et notamment à l'époque, hein, parce que en fait ça c'est quelque chose qui existe, cette standardisation, on parle de ça depuis peut-être les années je dirais 90, 2000 ou quelque chose comme ça. Donc la plupart du milieu viticole travaillait tellement différemment que oui, ça sautait aux yeux. Et donc, on pouvait dire que ça standardisait les vins. Mais moi, j'ai une vision qui est, je dirais, à l'inverse, parce que moi, je bois énormément de carbonique, que ça soit partout en France, donc avec des cépages différents. Et c'est sûr que, je dirais, je prends l'exemple de la Syrah, parce que je connais quelques personnes qui travaillent la Syrah en carbonique avec plus ou moins de difficultés, ou le Pinot. Et ben, quand on va goûter ça, on va dire, ah oui, ben là, ça se voit, ça se sent, c'est de la carbonique. Mais en même temps, quand on en goûte plusieurs, avec plusieurs terroirs différents, avec plusieurs styles de vinification, enfin, ou styles de, ouais, de terrain, de veines différentes, ben, pour moi, il y a des grandes différences. Et donc, en fait, on parle de standardisation parce qu'on a l'habitude de goûter un style de vin, un style de vinification, et on n'a pas l'habitude de goûter l'autre. Et donc moi, quand je goûte des vins un peu plus classiques, faits de manière plus classique, notamment le Pinot Noir, ben des fois, je suis perdu au niveau du terrain, parce que je dis, mais c'est tout pareil, votre Pinot Noir, comme ça, éraflé, ça se ressemble tout, de la Côte de Nuit à la Côte de Beaune, voilà. Alors que quand on me fait goûter différentes carboniques, bah vu que j'ai toujours goûté ça sur des pinots, et ben moi j'ai l'impression de ressentir vachement plus le terrain. Donc je pense que cette standardisation, en fait on est standard juste parce qu'on a l'habitude de tel type de vinif ou tel type de vinif, mais il n'y a absolument pas de standardisation pour moi. C'est peut-être quelque chose de technique, c'est toujours délicat à faire et donc voilà quoi, ça demande beaucoup de précision, je pense. C'est que réellement la macération carbonique, généralement c'est des vins qui sont pas tout à fait, enfin par rapport à une semi-carbonique, c'est des vins qui sont pas tout à fait exubérants au départ. Alors sauf la carbonique stricte, mais dans un autre style. Mais par contre, je trouve qu'avec le temps, on a une finesse, une complexité qui est tout autre. Donc après, c'est vrai que c'est des leviers, c'est-à-dire que des fois, il faut savoir passer sur des semi-carboniques sur certaines années, mais ou faire moitié macération carbonique, d'autres semi, enfin ça c'est vraiment des choix différents, mais en tout cas la macération carbonique, elle n'est pas facile à faire, et elle n'est pas facile à comprendre, je dirais, d'entrée, comme ça, on goûte et c'est des fois un petit peu plus délicat. La gamme des vins. Nous on a donc on a des Beaujolais que j'ai repris depuis 2016 maintenant, une petite partie en 2019 aussi, qui se retrouve sur Corcelle et Lancier avec beaucoup de vieilles vignes. Donc voilà, ça nous permet de faire la cuvée eau. Voilà. Derrière, on a plusieurs fleuries, toute une gamme de fleuries avec les fleuries coup de folie, fleuries coup de foudre et les cuvées du chaos, donc avec des jeunes vignes, des vieilles vignes et les cuvées du chaos qui sont un terrain un petit peu spécifique. C'est mes premières vignes que j'ai travaillées en biodynamie aussi, mais il y a un soupçon d'argile qu'on n'a pas du tout sur les coups de folie, coups de foudre qui sont uniquement sur des terrains granitiques avec des très faibles profondeurs. Ensuite, on a un petit peu de Morgon dans la continuité de nos fleuries, puisque en fait moi j'ai la chance d'avoir 7 hectares et demi d'un sol tenant sur fleurie Morgon. Donc on est vraiment dans la continuité des fleuries, mais il y a quand même des variations un petit peu sur les terrains, avec notamment un petit peu de schiste et beaucoup plus de fer. Donc ça, c'est toute la gamme du domaine, et depuis 2016, où je me suis installé officiellement avec mes parents, j'ai malheureusement grêlé à 100%. Donc on sortait d'une année un peu difficile en 2015, on a regrêlé à 80% en 2017, on a grêlé, je suis à ma 10e année, j'ai grêlé 6 fois en 10 ans. Donc on a mis en place une petite structure de négoce, donc d'achat raisin uniquement, hein, c'est de l'achat raisin, on va vendanger nous pour maîtriser au mieux les dates de maturité déjà d'entrée. On fait toutes les vinifs nous, enfin on fait le même boulot. C'est tous des raisins qui sont certifiés bio aussi, et donc là on retrouve, je suis longtemps resté sur Julienin Saint-Amour où je faisais deux cuvées, et puis là cette année on a un peu ouvert. Du fait qu'on avait grêlé, que certains de mes partenaires vignerons volent de leurs propres ailes ou prennent leur retraite, donc diminuent un petit peu les quantités. Et donc là, on a ouvert, on a fait un petit peu de Morgon et une autre cuvée de fleury.
Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut reconnaître d'un coup d'œil tes cuvées qui sont en négoce ou en propriété, c'est assez sympa, c'est que ta cire, je te laisse expliquer.
Comment... Ah oui, ouais, la cire, ouais, le premier coup d'œil, ouais, j'avais pas pensé à ça.
Et puis il y a la contre-étiquette.
Voilà, aussi, la contre-étiquette, on a toujours noir sur blanc que c'est nos raisins ou c'est pas nos raisins, voilà, avec les différents producteurs qui nous le fabriquent, parce que c'est quand même eux qui travaillent toute l'année. Nous, on essaye d'embellir les choses avec la vinification, mais encore en plus de ça, c'est vraiment une collaboration, parce que Moi, j'aime aller voir les vignes plusieurs fois durant l'année. Donc, c'est vrai que le fait que ça soit que de la Charisin, le Beaujolais, pour moi, c'est une grande facilité de suivre les choses et de suivre notamment les parcelles, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais j'achète les parcelles, les mêmes parcelles chaque année. L'objectif, c'est d'avoir une réelle continuité dans les vins. C'est pas juste de faire un Saint-Amour ou un Juliénin. Il y a ça, et puis le fait qu'on est de viticulteur à viticulteur, donc moi l'objectif c'est de faire les meilleurs vinifs possibles, et pour ça moi je le vois chez moi, je pense que c'est très important, les sols sont ultra importants, l'équilibre de la vigne aussi, donc l'objectif c'est de on va dire de les emmener sur les pratiques que je préfère pour m'améliorer aussi le travail, hein, clairement. Et après, ben, d'un coup d'œil, vous pouvez voir mes cuvées négoces ou pas, puisque je décide de faire toutes mes cuvées, de cirer l'ensemble de mes cuvées, et toutes les cires qui sont cirées en biais sont les vins du domaine, et toutes les bouteilles qui sont cirées droites, à peine à la bague, sont les cuvées de négoces.
Est-ce que tu aurais une fourchette de prix à nous donner sur tes vins pour quelqu'un qui se rendrait en cave et voilà, une fourchette du début.
On est de l'ordre de, grosso modo, ça dépend des cavistes, hein, il y en a qui sont plus ou moins avec des coefs, mais grosso modo, c'est, on va dire, de 17-18 euros pour les entrées de gamme à 25 pour les grandes cuvées.
Parfait. Et tu es distribué en France comme à l'étranger.
Alors, j'ai toujours privilégié le marché français dès le départ, malgré les difficultés que ça a donné, parce que on va dire que les Français ont besoin d'être rassurés avant d'acheter un produit. Donc, faut y aller, faut aller serrer des mains. Mais réellement, j'ai fait le boulot, et pour moi, le fait de travailler en biodynamie, tout le domaine, le fait de faire attention sur des choses, l'objectif, c'est de pas tout envoyer à l'étranger, de faire péter le bilan carbone du domaine. Donc j'ai toujours privilégié ça. Et puis, il y a un réel... c'est très chouette d'avoir aussi une relation commerciale avec ce marché français qui redonne énormément. Alors c'est sûr, on fait un peu plus de, on va dire, des petits volumes de restaurant à restaurant, mais par contre c'est génial parce qu'on vend quelque chose à des gens quasiment en direct, et c'est super. Et puis bien sûr, on retrouve les vins aussi à l'étranger. Il y a plutôt pas mal de petits importateurs, ça nous va bien, on est des petits producteurs, mais aussi des grands, grands passionnés, parce qu'il y a des passionnés maintenant réellement de partout. On a la chance de travailler avec beaucoup de gens passionnés, quoi.
Et dernière question, est-ce qu'il y aura un vigneron que tu aurais envie d'écouter sur ce podcast ?
Il n'y a que un choix.
Deux, trois, si tu veux.
Non, parce que si c'est en Beaujolais, moi j'aurais bien voulu écouter Pierre Coton, qui est un grand, grand copain, avec qui on a beaucoup de relations, mais c'est quelqu'un qui a, avec Marine maintenant, qui a une très bonne et une grande dynamique sur le côté gros foresterie et couverts végétaux notamment, où ils essayent de vraiment trouver des solutions parce qu'ils sont sur des coteaux, sur la côte de Brouilly, qui est assez costaud à faire. Ailleurs, il y aurait tellement de gens aussi à citer qui me feraient envie. Je vais citer, on va dire, Hervé Souhaud, qui est vers Arlebosque, qui est en Ardèche, où j'ai eu énormément d'émotions en buvant ses vins, Et c'est pareil, c'est des sierras un peu en hauteur, sur des carboniques, notamment des sierras en carreau. Et voilà, un mec super.
Parfait, merci beaucoup.
Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous. Comme vous l'aurez compris, le but de ce podcast, c'est aussi de confronter les différents avis. Si vous avez des remarques, des compléments d'information, vous pouvez les inscrire en commentaire ou sur Instagram. Nous sommes aussi joignables par email, toutes les informations sont dans la description. Tum 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 t